les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 16 novembre 2020. Bonjour à tous. SpaceX, la société spatiale privée fondée par le milliardaire Elon Musk, a envoyé dimanche 4 astronautes en direction de la Station spatiale internationale, ISS, la première mission à part entière de la NASA, pour lancer un équipage en orbite à bord d'un appareil conçu et exploité par un groupe privé. La NASA a décrit cette mission comme la première opérationnelle pour la fusée et la capsule développée pendant une décennie. Et il s'agit au début d'une nouvelle ère. Il s'agit du moins du début d'une nouvelle ère. Les astronautes américains sont désormais transportés en orbite par des véhicules spatiaux développés, détenus et exploités par un groupe privé et non la NASA. Présidentielle américaine, le président Donald Trump a semblé reconnaître pour la première fois dimanche que son rival démocrate Joe Biden avait remporté l'élection présidentielle ici aux États-Unis, tout en réitérant ses accusations de fraude. Il a gagné parce que l'élection était truquée, a écrit sur son compte Twitter le président républicain en partageant une vidéo de Fox News. Donald Trump avait déjà reconnu implicitement vendredi que Joe Biden pourrait lui succéder à la Maison-Blanche en janvier, en déclarant à propos de la possible mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus qu'il ne savait pas quelle administration en aurait la responsabilité. Joe Biden a remporté l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à son adversaire républicain. Le premier ministre britannique Boris Johnson a été prié de s'isoler après avoir été en contact avec une personne dont le test au COVID-19 s'est révélé positif, a déclaré dimanche Downing Street. Il continuera à travailler à partir de son bureau, notamment en dirigeant la réponse du gouvernement britannique à la pandémie de coronavirus, a déclaré un porte-parole du premier ministre qui a déjà été hospitalisé en début d'année après avoir contracté le nouveau coronavirus. Sur le continent, l'Algérie va réimposer à partir de demain mardi des mesures de restriction pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, en fermant notamment les gymnases, les centres culturels et les lieux de loisirs et en limitant les heures d'ouverture de certaines entreprises, a déclaré dimanche le cabinet du Premier ministre. L'Algérie avait déjà commencé à assouplir ses mesures de restriction en juin, mais a été rattrapée ces dernières semaines par une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, 75 ans, a été testé positif au COVID-19 et transporté par avion dans un hôpital allemand. Le dialogue politique libyen s'est achevé dimanche en Tunisie, sans accord sur les noms des dirigeants du futur exécutif, a indiqué l'ONU. Nous avons convenu de nous retrouver dans une semaine pour une rencontre virtuelle afin de se mettre d'accord sur le mécanisme de sélection pour la future autorité, a fait savoir à la presse l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams. L'ONU avait déjà annoncé vendredi des élections pour fin décembre 2021. Crise en Éthiopie, le président ougandais Yoweri Museveni va entamer ce lundi en Ouganda une médiation entre le gouvernement éthiopien et les autorités dissidentes du Tigré, qui s'affrontent dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen, également ministre des Affaires étrangères et des représentants du Front de libération des peuples du Tigré, doivent rencontrer M. Museveni à Gulu, en Ouganda, selon des responsables ougandais. Sport et politique, la star ivoirienne du football Didier Drogba, ancien attaquant vedette de Chelsea et de Marseille, a appelé dimanche à la paix alors que son pays, la Côte d'Ivoire, est secoué par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara, un troisième mandat controversé. Drogba ne cite aucun des hommes politiques, alors que le président Ouattara et le principal opposant Henri Konan Bédier ont amorcé mercredi dernier un dialogue destiné à faire baisser la tension en Côte d'Ivoire. Et football, pour terminer, le Sénégal s'est qualifié pour la CAN 2021, la Coupe d'Afrique des Nations, en allant s'imposer 1-0 dimanche en Guinée-Bissau lors de la 4e journée des éliminatoires, devenant ainsi la première équipe du continent à décrocher sur le terrain son sésame pour cette édition de la CAN reportée en janvier 2022 pour cause de COVID-19. Jean-Roger Dion à ce micro, restez en notre compagnie sur VOA Afrique dans un instant. La suite de nos informations ce lundi 16 novembre au Niger, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain est connue. Elle a été publiée par la Cour constitutionnelle avec sans surprise l'invalidation du dossier du chef de file de l'opposition Amar Amadou, condamné en 2017 pour trafic d'enfants. Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant Issoufou Mahamadou, part grand favori de cette élection. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Réagissant à la validation de sa candidature sur laquelle des opposants ont émis des doutes relativement à sa nationalité qui ne serait pas d'origine nigérienne, le président du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, s'est réjoui du fait que ces derniers se soient retrouvés dans un état honteux.
Il n'y a aucun problème dans mon dossier, il ne saurait y avoir un problème. Et donc, je n'ai jamais été agacé par ce qui a été fait. Et j'ai regardé ce qu'ils le font avec beaucoup de mépris. Et je me réjouis aujourd'hui qu'ils se sentent un peu dans un état honteux.
Face à Mohamed Bazoum, il y aura entre autres l'ancien président de la République Mamman Ousmane, le général Salou Jubo, chef de la junte militaire de 2010, Seni Oumarou, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, ou encore l'ancien chef de la diplomatie nigérienne Ibrahim Yakoubou. La candidature du chef de file de l'opposition, Hama Amadou, a été rejetée pour cause de sa condamnation dans l'affaire des bébés importés, absent du territoire national le jour de la validation des candidatures. Il n'a pas encore réagi. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En marge d'un meeting à Ouagadougou, le chef de file de l'opposition burkinabé et candidat à la présidentielle du 22 novembre, Zéphirin Diabré, a déclaré qu'il ne fallait pas se fermer à l'idée d'un dialogue avec les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. Nathalie Barge.
Il est important qu'on ne se ferme pas à l'idée que l'on puisse avoir dans cette mosaïque de groupes qui nous attaquent des gens qui peut-être ont des revendications politiques et qui sont disposés à un dialogue politique, a déclaré Zéphirin Diabré avant un meeting au stade municipal de Ouagadougou. La question de savoir s'il faut ouvrir des négociations avec les djihadistes fait débat au Mali, où les alliés français et maliens sont en désaccord sur ce point et fait irruption dans la campagne électorale au Burkina Faso. Certains opposants ont publiquement déclaré être favorables à explorer cette voie, tandis que le président Roch Marc Christian Kabore, candidat à sa réélection, s'y refuse. Une embuscade revendiquée par le groupe État islamique sur une patrouille militaire dans le nord du Burkina Faso a fait 14 morts mercredi. Les attaques djihadistes entremêlées à des conflits intercommunautaires ont fait plus de 1 200 morts et 1 million de déplacés depuis 2015 dans le pays et 4 000 morts au Mali, Niger et Burkina Faso en 2019 selon l'ONU. Des pans entiers du Burkina Faso sont inaccessibles en raison de l'insécurité. En août, l'Assemblée nationale a modifié le code électoral afin que les élections de novembre soient validées, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l'ensemble du territoire.
Le Front Polisario a affirmé dimanche que le mouvement indépendantiste mobilisait des milliers de volontaires pour rejoindre les forces armées sahraouies dans la crise qui l'oppose au Maroc, dans le territoire disputé du Sahara occidental. Michel Joseph.
Des milliers de volontaires sont en train de rejoindre les régions militaires parmi ceux qui ont fini leur instruction, a déclaré le chef de la diplomatie de la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée. La voie a été débloquée samedi. En réaction, le Front Polisario a décrété l'état de guerre et la fin du cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui s'est entretenu dimanche avec ses homologues marocains Nasser Bourita et algérien Sabri Boukadoum, a souligné l'importance primordiale de veiller au respect des accords de cessez-le-feu. Monsieur Bourita a assuré de l'attachement du Maroc au respect de ces accords.
C'est l'heure de la Minute Écho avec John Lindon.
Alors que certaines informations dans les milieux politiques et économiques annonçaient depuis quelque temps un éventuel désengagement de Total du Gabon, le groupe français vient de réaffirmer la poursuite des activités onshore et offshore. C'est l'une des résolutions rendues publiques à l'issue du conseil d'administration de Total Gabon tenu à Libreville. Pour Nicolas Thérèse, par ailleurs directeur Afrique, exploration et production de Total, le départ du Gabon n'est pas du tout à l'ordre du jour et je peux vous le dire clairement, nous avons une opération en cours. Il s'agit du transfert à une autre société des activités dont nous ne sommes pas opérateurs. Total Gabon aujourd'hui se recentre sur ses pôles opérés qui sont les pôles Tanguy et Torpille. Au Mali, les sociétés minières Barrick Gold Corporation, Lext Randgold Resources et Anglo Gold Ashanti Limited ont vendu leur part dans la mine d'or de Morila à Firefinch Limited, selon un communiqué conjoint des deux entités. Selon Financial Afrique, le montant de la transaction annoncée est de 28,8 millions de dollars. Les deux sociétés détenaient 80% de la mine d'or qui reviennent désormais à Firefinch Limited, précédemment connue sous le nom de Mali Lithium Limited. Cette dernière devient le partenaire de l'État du Mali qui continue de détenir les 20% restants.
Et maintenant la page de sport en compagnie d'Élisée Oupatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Roger Dion et bonjour à tous.
Qualification pour la CAN 2022, pas de repos alors que la troisième journée vient tout juste de se terminer. La quatrième journée a repris dimanche.
Tout à fait, et plus intense. Celle-ci n'est étalée que sur trois jours et s'achèvera mardi. Les étalons du Burkina Faso retrouvent les flammes du Malawi ce lundi au stade Kamuzu de Blanti, un adversaire qu'ils avaient battu il y a quatre jours à Ouagadougou. Le point de la préparation avec notre envoyé spécial à Blanti au Malawi, Kader Traoré.
Les étalons du Burkina seront face aux Flames du Malawi ce lundi à 13h GMT dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Victorieux 3 buts à 1 face à cette même formation malawite il y a 3 jours à Ouagadougou, Kamou Malo et ses hommes tenteront de récidiver l'exploit afin de s'ouvrir le chemin de Cameroun 2021.
Un match capital, comme vous le savez. Vous savez que nous sommes à 90 minutes d'une probable qualification. L'équipe adverse aussi sait que ce match est aussi très important. Alors donc pour moi du coup c'est vraiment une petite finale avant la lettre parce que la qualification pour nous déjà peut se jouer demain.
Charles Kabore, le capitaine des étalons, avait manqué le rendez-vous de Ouagadougou à cause d'une suspension. Il va retrouver le groupe et pour lui aussi le match est très capital car tout peut se jouer à partir de là.
C'est un match important pour nous et on a déjà oublié le match passé. Et en sachant bien qu'ils jouent chez eux, ils ont déjà l'habitude de ce terrain et tout. Maintenant, c'est à nous de s'adapter parce qu'on n'a pas d'excuses et pour avoir un bon résultat. C'est important parce que par rapport à la qualification, c'est un concurrent direct. Maintenant, si on arrive à avoir un bon résultat demain, on peut les éliminer.
Dans un groupe à quatre équipes où la qualification est réservée aux deux premiers, le Burkina peut empocher le ticket de Cameroun 2021 en cas de victoire, car il ne sera plus mathématiquement possible d'être rejoint par le troisième du groupe, le Malawi. Kader Traoré à Blantyre au Malawi pour VOA Afrique.
Co-leader du groupe, l'Ouganda sera en déplacement au Soudan du Sud pour confirmer sa victoire du match aller.
La suite des matchs de ce jour.
Dans le groupe C, l'Afrique du Sud jouera pour la première place face à Sao Tomé et Principe. Le Gabon tentera de garder la place du leader du groupe D en Gambie. Et puis dans le groupe H, le Botswana en difficulté cherchera une bouffée d'air face à la Zambie pendant que l'Algérie en cas de victoire assurera sa qualification à Harare devant le Zimbabwe.
Justement, Élisée, le Sénégal a été hier le premier pays à valider son ticket pour la phase finale de cette compétition.
Exactement, Jean-Roger. Avec 12 points, les Sénégalais sont en effet certains de finir à l'une des deux premières places du groupe I. Ils ont décroché le point qui leur manquait en gagnant 1-0 en Guinée-Bissau. Second au classement, le Congo-Brazza doit confirmer sa victoire du match aller à Eswatini afin de maintenir toutes ses chances de qualification.
Les autres résultats des matchs disputés hier.
Oui, et rien ne va plus pour la Mauritanie dans le groupe E, accroché à l'aller par le Burundi. Les Mourabitoun ont cédé à Bujumbura 3 buts à 1, tout comme le Kenya battu au Comores sur la marque de 2 buts à 1. La Guinée a raté l'occasion de prendre seule la tête du groupe A après avoir concédé le nul au Tchad 1 but partout. Et puis la Guinée équatoriale se replace après avoir battu deux fois la Libye. Le Zalang national prend la deuxième place du groupe J.
Du basketball pour terminer, démarrage perdre dimanche à Kinshasa de la 37e Coupe du Congo.
Et les champions en titre ont lancé un signal fort à l'ouverture de cette compétition. On retrouve notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simbo Yamba Yamba.
Et c'est une entrée réussie pour les champions en titre dans les deux versions à l'entame de la 37e Coupe du Congo de basketball qui a ouvert ses portes ce dimanche à Kinshasa au stade des Martyrs. Chez les messieurs, le basket club Mazembe a pris la mesure sur Dessimpé en l'emportant largement 76-47. Une manière pour le Corbo version basketball d'afficher l'ambition de conserver une fois de plus les titres gagnés l'année dernière. Chez les dames, la tenante du titre a elle aussi donné le ton. Dès sa première sortie, Makomeno du Katanga a infligé une véritable leçon du basketball à Tourbillon de Kinshasa, 64-29, score au terme de cette opposition. La compétition est lancée, les ambitions affichées, les adversaires à la conquête de ces deux titres nationaux sont avertis. Au total, 21 clubs prennent part à ce championnat national. 15 clubs chez le messieurs répartis en deux groupes de 8 et 7, dont les 4 premiers de chaque groupe auront les tickets pour les quarts de finale, tandis qu'un mini-championnat est de mise chez les filles. Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Page de sport VOA Afrique, signé Élisée Oupatine. Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique en votre compagnie Jean-Roger Dion. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, le gouvernement a validé la semaine dernière en Conseil des ministres un projet de révision de la Constitution, une modification de la loi fondamentale pour tenir compte des résolutions issues du deuxième forum national inclusif tenu à N'Djamena en octobre dernier. Ces résolutions prévoient entre autres la création d'un poste de vice-président et l'instauration d'un parlement bicaméral. Mais le projet ne fait pas l'unanimité chez tous les acteurs politiques. André Kodmajinga est le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Selon le projet de loi constitutionnelle, le vice-président sera nommé et révoqué par le président de la République. Il aidera le chef de l'État dans ses responsabilités et fonctions en cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire. Une initiative qui va supprimer définitivement la primature.
Nous avons défendu les principes de la vice-présidence parce que c'est logique avec la 4e République. Si vous mettez un premier, ça veut dire que vous remettez en cause la 4e République et vous revenez à une autre République qui est parlementariste.
Abdraman Jasnaba est coordonnateur de la majorité présidentielle. En cas de vacances de poste ou d'empêchement définitif, les attributions du chef de l'État sont provisoirement exercées par le vice-président. Il procédera à de nouvelles élections présidentielles 45 jours au moins et 90 jours au plus. Dr Nasra Dimasengar, secrétaire général du parti Un Nouveau Jour, a déclaré que l'opposition est mise en minorité dans ce débat.
On avait marqué notre opposition catégorique parce que c'est un poste qui va diviser les Tchadiens.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, il faut expérimenter cette forme de l'État avant de juger.
C'est une première expérience pour le Tchad depuis son indépendance. En 2018, c'était le système de la présidence intégrale, mais maintenant, l'intégralité se limite et le Parlement est secondé d'une chambre haute, le Sénat. Donc, c'est de répondre à des réalités politiques du pays dans la recherche de la stabilité, du vivre ensemble.
Pour beaucoup d'observateurs, la création du Sénat en lui-même n'est pas mauvaise en soi, puisqu'il jouera le rôle de négociateur pour des intérêts locaux entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Par contre, la création du poste de vice-président relève d'un calcul politique.
Le président actuel ouvre une possible succession par voie constitutionnelle des dauphins qu'il aura choisis pour pérenniser son régime.
Dr Doyan Dibam, publiciste et consultant indépendant, pour lui, deux scénarios sont envisageables.
Le premier scénario, c'est que en plein milieu d'un mandat présidentiel, le président peut décider de se retirer pour se faire remplacer à la tête de l'État par un vice-président dauphin. Le second scénario, c'est que le président peut décider de ne plus se représenter à l'élection présidentielle, pas en avril 2021, peut-être au prochain scrutin, d'investir un vice-président dauphin qui portera les couleurs du parti au pouvoir.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, ce genre d'analyse semble être assez courte et sans fondement.
Si le président aurait l'intention de transformer la forme républicaine de l'État en monarchie ou toute autre forme, il n'aurait pas accepté qu'il y ait une répartition des pouvoirs entre le président et un vice-président. C'est plutôt le contraire. C'est vrai, certains pays l'ont expérimenté comme la Côte d'Ivoire ou le Kenya où ça n'a pas marché. Mais le Tchad a son propre contexte.
Si ce projet de loi constitutionnelle validé par le Conseil des ministres est adopté par l'Assemblée nationale, c'est pour la troisième fois consécutive consécutive que la loi fondamentale sera modifiée en 30 ans de pouvoir de Déby. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, la campagne électorale comptant pour les élections du 22 novembre prochain se poursuit. Une campagne qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile. Ils sont 13 candidats à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Les populations ont du mal à suivre les programmes des candidats. Les analystes pensent qu'on pourrait justement assister à une abstention record lors de ces élections. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
Quelques deux semaines après l'ouverture de la campagne électorale, les populations ont fini d'écouter l'ensemble des 13 candidats à la présidentielle et des candidats aux législatives.
Rock, j'aurais mieux espéré qu'il fasse mieux parce qu'il a toujours été là au pouvoir, même si c'est Blaise qui dirigeait.
Victorien Moulet est un électeur.
Lui, il n'est pas vraiment étranger au pouvoir en place. Taïrou Bari, je l'ai suivi depuis 2015. C'est quelqu'un qui a su répondre et il a toujours été direct et cohérent dans tous ses propos par rapport aux autres qui ont promis donner le ciel ou qui ont promis ramener de la mer. C'est des choses qui sont possibles, mais à quand et à quel prix ? En ce moment, beaucoup de Burkinabés espèrent que leur quotidien change.
Robert Yameogo, mis sur la réélection du président sortant.
Pour moi, parmi les 13 candidats, je pense que c'est le président Rock. Pour le moment, c'est lui, je vois, pour la continuité, à part le terrorisme, qui est l'impact sur le gouvernement. Du président Rock, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients et je vois beaucoup de choses qu'il a pu réaliser.
Les programmes des candidats ne sont pas accessibles aux populations quant à leur compréhension. Cela aura un impact sur ces élections selon Siaka Koulibaly, analyste politique.
Les programmes, comme d'habitude, restent assez élitistes et formulés d'une manière qui est difficilement appropriable par la plus grande majorité des populations. Qu'ils soient analphabètes ou à un niveau d'instruction intermédiaire. Il reste que la plupart des Burkinabés ressentent une espèce d'insuffisance de la part de la classe politique en termes de figures qui tranchent et qui peut se présenter comme celui qui peut réellement régler les difficultés auxquelles fait face le pays à l'heure actuelle. Si bien qu'on pourrait s'attendre à une abstention assez importante.
Cette campagne se tient dans un contexte sécuritaire tendu. En pleine campagne, le chauffeur d'un député de la majorité a aussi été tué. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, la nouvelle campagne lancée par le gouvernement fédéral pour réglementer les médias sociaux fait débat dans le pays. Cette campagne fait suite aux manifestations contre les brutalités policières. Des manifestations qui étaient largement accompagnées par des campagnes sur les médias sociaux. Reportage, Gilbert Tamba à Abuja.
Si le gouvernement parvient à faire passer son projet visant à contrôler les réseaux sociaux, ce sont autant de moyens de communication qui pourraient être menacés. WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype ou encore Viber sont au cœur du débat près d'un mois après la répression brutale des mouvements de protestation de la jeunesse contre les violences policières et pour une meilleure gouvernance dans le pays. Les déclarations en faveur d'un contrôle d'Internet par les autorités nigériennes se multiplient. JJ Omojua est un blogueur nigérien influent sur les réseaux sociaux. Connu pour son franc-parler, il craint que cela menace la liberté d'expression des Nigériens.
It just limits first of all the infrastructure.
Cela va d'abord limiter l'accès à l'Internet. Je pense qu'aucun gouvernement responsable ne peut faire ça. J'espère que ce gouvernement ne fera pas appliquer cette décision. Et j'espère qu'il ferait mieux de ne pas aller en guerre contre ses citoyens. Il ferait mieux de ne pas mettre un terme à leur liberté d'expression et violer leurs droits humains.
Pourtant, Internet fait partie de la vie quotidienne des millions de Nigériens. Les gouverneurs du nord du pays récemment réunis à Kaduna se sont également prononcés officiellement en faveur de telles mesures de contrôle. Ce qui passe mal pour la société civile et d'autres leaders d'opinion qui s'opposent au projet. C'est le cas de la directrice du Centre pour la démocratie et le développement CDD, Hidayat Hassan.
La crainte est premièrement le fait que les gens s'expriment. La manifestation pour mettre fin à SARS ou N-SARS nous a aussi donné l'opportunité de comprendre qu'il est possible de mobiliser en ligne et que cette mobilisation en ligne peut se traduire dans les rues. Donc, ils n'ont jamais pensé que la mobilisation en ligne pouvait devenir une réalité dans les rues. Mais vous aviez vu l'envergure et la dynamique des manifestations des jeunes.
Des voix pour dénoncer l'initiative du gouvernement, mais aussi des inquiétudes pour d'autres Nigérians qui se posent encore des questions sur ce que les autorités veulent réellement réglementer sur les réseaux sociaux. Le professeur Walter Iyejirika, expert en communication de l'université de Port Harcourt dans le sud du Nigeria.
Mon inquiétude est que le gouvernement n'a pas encore indiqué clairement ce qu'il veut réglementer. Veut-il contrôler le contenu de ce que les gens publient, qui est déjà soumis à un contrôle, ou bien il veut contrôler les gens eux-mêmes?
Les autorités, elles parlent d'un simple problème d'interprétation, une communication qui, malgré tout, ne dissipe pas les inquiétudes. Le ministre de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed.
Pour nous, en tant que gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'un projet de loi, mais d'une politique. Il s'agit de la technologie et aussi d'un consensus entre les utilisateurs. Ce qui s'est passé récemment nous interpelle plus que jamais et oblige le gouvernement à prendre des décisions pour nous permettre d'avoir des informations crédibles sur les réseaux sociaux.
Des tentatives des autorités fédérales pour le contrôle des réseaux sociaux ne sont pas nouvelles au Nigeria, où durant les 5 dernières années, plus de 3 projets de loi visant à encadrer l'usage des réseaux sociaux ont été déposés, mais sont toujours dormants dans les tiroirs des députés au Parlement fédéral. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Direction le Togo, le 14 novembre dernier, c'était la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Cette année 2020, l'accent a été mis sur l'apport des infirmiers dans le traitement et la prévention de cette maladie non transmissible. Dans ce contexte de pandémie liée au Covid-19, ce fut aussi l'occasion de sensibiliser sur la corrélation entre le diabète et le nouveau coronavirus. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayla Osson.
Au Togo, 27% des personnes décédées de la Covid-19 souffraient du diabète. Les détails de la comorbidité entre les maladies non transmissibles et la Covid-19 au Togo, avec le professeur Monfou Bello, chef division de la surveillance des MNT au ministère de la Santé.
Sur 60 personnes décédées de la Covid-19 au Togo, 27 avaient une hypertension artérielle, 16 portaient un diabète, 8 personnes décédées de la Covid-19 étaient obèses, 3 avaient un AVC, 2 personnes portaient une insuffisance rénale chronique et une personne présentait un cancer.
Le diabète est l'un des facteurs qui augmente le risque de formes sévères et de décès parmi les patients infectés par le coronavirus, a expliqué à VOA Afrique le professeur Jean-Marie Dangou, coordinateur du programme de gestion des MNT à l'OMS Afrique.
Le diabète fait que si vous êtes infecté par le coronavirus, vous développez des formes graves. Ce virus va déstabiliser votre diabète et vous développez des complications. Ces complications qui généralement arrivent à plus ou moins longue échéance, cette fois-ci à cause de la Covid-19, dans les jours qui suivent, vous pouvez faire un coma diabétique, vous pouvez faire une insuffisance rénale aiguë, une défaillance cardio-respiratoire aiguë, vous pouvez avoir une défaillance de plusieurs de vos organes en même temps, parce qu'il y a ce lit du diabète qui est là.
L'avènement de la Covid-19 a bouleversé la vie des diabétiques au Togo, comme le témoigne Augustin Nimon, président de la coalition contre les maladies non transmissibles au Togo.
La Covid-19 a eu un impact très 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 significatif sur les diabétiques. Et nous avons en effet remarqué qu'il y a eu une rupture de stock de l'insuline dans les pharmacies. Le manque d'insuline a fait que beaucoup ont souffert. Et lorsqu'ils n'arrivent plus à s'injecter, il apparaît des complications. Même les patients diabétiques qui avaient des rendez-vous avec les médecins, les rendez-vous ont été annulés.
Le personnel infirmier et le diabète est le thème 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Il s'agit d'impliquer davantage les infirmiers dans la prévention et le traitement de cette pathologie. Selon le Bureau régional Afrique de l'OMS, 18,3% des décès dus à la Covid-19 sur le continent sont liés au diabète. Raison de plus pour accentuer la sensibilisation autour de la prévention, d'autant plus que le diabète se révèle être une maladie incurable. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. Réalisation, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour le suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.